citoyenne avec Sébastien Saint-François.
7h30, salut Sébastien.
Salut Charles.
Soulagé, notre gouvernement n'est pas tombé hier.
Ah, mon Dieu.
Il n'y a pas eu de coup d'État.
On va parler tantôt du cirque à Ottawa. On n'a pas fini d'assister à des entreloupettes et toutes sortes de prouesses.
On s'en garde pour tantôt. On parle de la CAQ d'abord. La CAQ qui appelle à se serrer la ceinture et songe à rouvrir la porte aux dons.
Ben oui, donc, la CAQ, on sait que on a beaucoup dépensé au fil des derniers mois, des dernières années. On est rendu avec un déficit de 11 milliards qu'on nous a présenté au dernier budget. Alors que quand la CAQ est arrivée au pouvoir, les libéraux de Couillard avaient quand même laissé un surplus de 7 milliards. Donc là, on commence à penser à 2026, hein, parce qu'il y a des élections qui vont s'en venir. Donc, ça a l'air qu'on a mis, on a lancé le mot d'ordre qu'il fallait, aux députés et aux ministres, il fallait serrer la ceinture. Il fallait arrêter de faire des annonces non ficelées, puis il fallait couper dans les annonces locales. C'est un peu paradoxal parce que hier, on apprenait que le gouvernement a alloué 6,5 millions à un tournoi de golf qui a lieu en ce moment là, à l'île Bizarre, donc un tournoi de professionnels, mais quand même.
La PGA, je le dis en passant, génère des profits de près de 2 milliards de dollars par année.
Oui, c'est sûr, mais tu sais, dans le contexte actuel, puis Nordvolt, puis là, on entend parler que ça va pas bien à Nordvolt, puis qu'on a déjà déboursé 710 millions de dollars, dont de l'argent qui a été envoyé en Suède. Tu sais,
s'accumule. On n'est pas regardant, des fois.
Tu sais, il faut dire que la CAQ, on l'a vu, hein, le premier mandat, bon, ça a été principalement la COVID, le temps de la COVID, puis bon, on gouvernait par décret, puis ça allait bien, entre guillemets, pour Legault, mais on peut pas dire que son deuxième mandat est aussi reluisant, puis on a l'impression d'un gouvernement impulsif, brouillon, émotif, qui revient sur des décisions, puis après ça, on va de l'avant. Donc, je pense qu'il est temps, s'ils veulent présenter un bilan tant soit peu intéressant aux électeurs pour 2026 de commencer à faire de l'ordre dans leur propre rang. Faire du ménage.
Mais tu sais,
il y a les réformes aussi. Il y a les réformes, les résultats des réformes, santé, éducation. On va les juger aussi beaucoup là-dessus. Ouais,
mais la perception et la réalité, hein, des fois, il s'agit juste de le dire, pas de le faire. Mais on le dit, ça veut dire qu'on fait de l'ordre.
Je pense qu'ils sont scrutés d'un peu plus près que ça.
Il va falloir scruter.
Puis là, ben c'est ça, on apprend qu'ils veulent aussi rouvrir la porte aux dons. Il faudrait se rappeler, hein, on se rappellera plus tôt cette année, il y avait eu on avait appris dans les médias qu'il y avait des événements organisés par des députés de la CAQ où on semblait vouloir monnayer l'accès aux ministres. Donc, on disait, venez, achetez-nous un billet 100 $, vous allez pouvoir discuter avec une telle ou un tel. Donc, ça avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Puis Legault avait dit, on arrête ça drette là, il n'y en aura plus de financement. On va juste prendre le financement politique. Mais bon, la commissaire à l'éthique a blanchi un député de peu connu, Louis-Charles Thouin, qui avait justement été impliqué dans une de ces histoires-là. Donc, depuis ce temps-là, on apprend que Legault songe à rouvrir la porte aux dons privés, donc aux événements de financement. Écoute, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Hein? Les élections, ça se gagne, entre autres, avec de l'argent. Donc,
ça a l'air. Il y a une rumeur qui court. Hein?
Oui, il y en a bien des rumeurs qui courent. Il y en a plusieurs rumeurs qui courent.
Oui, bien, ça ne l'est plus. Ça l'a été pendant quelques jours, quand même quelques semaines. Pablo Rodriguez, les défis qui l'attendent comme candidat à la chefferie du PLQ.
Oui, j'ai trouvé ça surprenant. Dans une certaine mesure, la presse a lancé cette semaine un petit sondage auprès de ses lecteurs. C'est sûr que ça n'a rien de scientifique. J'y ai répondu moi-même. Où on donnait la liste des candidats annoncés. Puis on demandait aux électeurs qui, pensez-vous, ferait le meilleur chef pour le PLQ. Premier résultat surprenant, c'est que aucune de ces réponses est revenue chez un répondant sur 5. Donc, 19% ont répondu aucune de ses réponses. Mais Pablo Rodriguez arrive à 54%. Écoute, il vient juste de se lancer dans la course. Il est suivi de très loin, assez loin, par Charles Milliard à 20%. Et de Nicolas est à 4%. Alors, ça a l'air, il faut bien croire que Pablo a fait une belle impression au sein du parti. Mais j'en parlais hier midi sur les ondes avec M. Jacques Létourneau. J'ai participé à son émission hier. Je sais pas, mais M. Pablo Rodriguez a quand même plusieurs casseroles qu'il traîne derrière lui de ses années avec le PLC.
Je sais pas,
Rappelons-nous,
hein?
un gouvernement très, très dépensier, comme dit, nous le rappelle M. Poilievre à répétition, mais c'est vrai. Écoute, Trudeau n'a pas équilibré son budget une seule année qu'il a été là, puis c'est rendu qu'on a des déficits de 40 milliards. Et aussi un gouvernement très centralisateur et très intrusif dans les champs de compétences des provinces. Donc, je trouve que de miser sur M. Rodriguez, ça peut quand même être risqué pour le PLQ, parce qu'on sait que le PLQ en ce moment est dans la cave pour ce qui est du vote francophone et du vote dans les régions. On a besoin de quelqu'un qui est capable de présenter un profil économique crédible et qui est capable aussi d'aller chercher le vote dans le vote francophone et le vote dans les régions. Est-ce que M. Rodriguez est la personne pour le faire? On verra bien, mais je trouve qu'il y a quand même un risque de miser sur M. Rodriguez.
Ouais, ben,
moi, j'aime bien, même s'il est moins connu du public, j'aime bien M. Charles Milliard, parce que justement, il présente un portrait économique solide. Là,
Mais,
à la Chambre de commerce, puis tout ça.
C'est un parti en déroute, hein, c'est un parti à reconstruire.
Absolument.
Quoi qu'il arrive, là, si on élit que, mettons, M. Rodriguez, moi, il y a une partie de moi qui se dit, ben, j'aimerais ça que ce soit lui qui est en découdre avec les conservateurs, si jamais les conservateurs sont élus. Mais dans ma tête, ça fait, il sera peut-être probablement pas élu le Parti libéral aux prochaines élections. Tout se peut, mais bon, garde.
Oui, tout est possible, mais quand je vois 54% des bases, c'est, comme je te dis, c'est rien de scientifique, ce sondage-là, qui mise sur M. Rodriguez, on dirait qu'on voit en lui, en quelque sorte, un genre de sauveur. T'sais. Alors, il faudrait peut-être que les libéraux reviennent sur terre un peu puis se rendent compte où ils sont présentement dans l'électorat.
Oui, mais il y a bien des choses qui militent en sa faveur. Il y a un charisme incroyable.
Il est d'une
gentillesse absolue. Je l'ai eu en entrevue à quelques reprises. Très, très à l'écoute, très sympathique. Évidemment,
Ils sont tous sympathiques.
Lui plus plus. Oui.
Il traîne quand même du bagage.
Là-dessus, tu as raison.
Le PLQ, la dernière chose qu'il veut, c'est de devenir, dans la perception populaire, une succursale du PLC.
Il y a un petit danger déjà que M. Coderre est là. Le cirque des motions de censure commence à Ottawa.
C'est commencé hier. Hein. Sans surprise, les deux motions, il y a deux motions qui ont été déposés, un par M. Poilievre qui a été défait, et l'autre, c'est le gouvernement lui-même, ça portait sur l'inclusion. Les impôts sur le gain en capital, donc ça aussi, ça a passé. Il va y avoir un autre vote la semaine prochaine, on dit le 1er octobre, donc d'une motion conservatrice. Et là, on apprenait hier que M. Blanchet, donc du Bloc québécois, fixe au 29 octobre l'ultimatum pour que le gouvernement lui accorde sans aucun compromis, les deux projets de loi, soit sur la bonification des pensions pour les 65 à 74 ans, et aussi l'autre projet de loi qui exclurait la gestion de l'offre de toute négociation commerciale. Et M. Blanchet a bien dit, je veux ça voter intégralement, sans quoi je vais faire tomber le gouvernement. Alors, on assiste à un grand spectacle. Ce que je trouve désolant, c'est qu'on joue, on est en train de jouer avec de l'argent qu'on n'a pas pour réaliser des gains pour les gens, mais en même temps, on est en train de maintenir en vie un gouvernement de façon très artificielle. Le Globe and Mail disait dans un article, un éditorial plus tôt, cette semaine avait qualifié le gouvernement d'un gouvernement zombie, dans le sens que c'est un gouvernement qui avance à l'aveugle, puis bon, c'est qu'il va tomber tôt ou tard,
Demandes...
C'est le grand jeu là, des gains potentiels.
Mais je t'arrête un peu, les demandes, je veux bien l'argent qu'on n'a pas, mais les demandes sont quand même... Bon, il y avait des promesses libérales derrière tout ça, je pense aux pensions, entre autres.
Oui.
Faut que ça change de ce côté-là, il y a des injustices incroyables, donc aller couper ailleurs, mais penser à nos vieux. L'autre affaire, la gestion de l'offre, c'est un problème majeur qu'on se doit de régler face à un géant américain qui fait un dumping éhonté. Je suis en train de faire un discours politique tout d'un coup.
Ouais, ben ouais.
mais,
présente.
Votez pour moi. Mais je trouve que les demandes sont légitimes. Je veux bien pas d'argent ou couper ailleurs. Mais il y a des choses importantes. Il y a les citoyens, il y a les gens qui travaillent fort.
Ben, tu viens de dire les deux mots-clés, couper ailleurs. J'en parlais d'ailleurs hier avec M. Yvon Laprade, qui est un des chroniqueurs de Jacques. Justement, il parlait notamment des subventions pétrolières qu'on continue de débourser.
C'est ça, la clé,
c'est de couper ailleurs, parce qu'on n'arrête pas d'ajouter, mais on ne coupe pas ailleurs. C'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'on est rendu avec un déficit structurel puis de 40 milliards cette année.
Jusqu'au 29 octobre, on check ça. On va voir si ça va bouger.
Là, il y en a qui commencent à spéculer qu'on pourrait être en élection soit le 9 ou le 16 décembre. On verra bien. Je sais que Tommy Théberge, lui, il dit que ça ne sera pas avant octobre 2025 à cause des pensions. Moi, j'y crois pas. Ça ne peut pas tenir jusque-là.
Patrick Clown pense comme ça aussi.
Oui, mais si tu regardes l'environnement et les échanges acrimonieux en ce moment, je vois pas comment ils peuvent tenir ça un an. Ça reste à suivre, mais c'est sûr que les prochaines semaines seront divertissantes, si on veut, entre guillemets.
Oui, l'argent, le nerf de la guerre aussi pour les partis, il y a ça aussi, puis il y a le seul momentum actuellement, là, ben, en fait, ce sont les conservateurs, puis les conservateurs avec un bloc fort au Québec, et eux autres, ils se peuvent plus de toute façon. On s'en va, on termine ça avec nos voisins américains, Mme Harris, qui propose un deuxième débat, mais M. Trump refuse et avance aussi qu'il ne sera pas, ça c'est une bonne nouvelle, qu'il ne sera pas candidat en 2028, s'il perd.
Ben oui, commençons avec ça. Donc, il a annoncé plutôt cette semaine que s'il perdait l'élection cette année, qu'il ne serait pas sur les rangs en 2028. Écoute, il y aurait 82 ans en 2028. S'il y a encore un pays, hein, parce qu'on ne sait pas, là, si mettons qu'il perd en novembre et que la gang MAGA prend les armes, tout est possible dans ce pays.
Arrête-toi, malheureux.
Tout est possible. En tout cas, il dit donc qu'il ne sera pas candidat en 2028. C'est une bonne nouvelle. Reste à voir. Il faut pas l'exclure de la course de 2024. Ça demeure très, très, très serré. Ça va jouer dans une poignée d'États, puis même dans ces États-là, dans une poignée de comtés. Alors, rien n'est gagné. Mais en effet, donc, là, son prétexte, c'est de dire que le vote par anticipation a déjà commencé, donc il est trop tard pour un deuxième débat. Disons les choses comme elles sont. Trump voulait un débat sur les ondes de Fox News et Harris sur CNN. C'est sûr que Trump et CNN, il est allergique à cette chaîne. Mais je trouve ça regrettable pour les électeurs qui sont encore indécis et pour les indépendants qui ne se sont pas fait une idée, parce qu'on n'a pas vraiment... Tu sais, moi, je l'ai écouté, le premier débat entre Harris et Trump en septembre. Puis je suis resté sur ma faim parce que Harris, elle sort de nulle part. C'est la vice-présidente en fonction, mais on la voyait pas beaucoup les trois dernières années et demie.
C'est ça, on ne la connaît pas tant que ça.
C'est
ce qui milite en sa faveur, moi, je te dirais.
Oui, mais c'est parce que pour l'électorat qui a un choix à faire, puis un choix essentiel à faire, parce que c'est deux visions totalement différentes de l'Amérique qu'on nous présente, je trouve que l'électeur qui n'en connaît pas beaucoup sera à risque.
Effectivement. Tu reprochais aussi de ne pas avoir suffisamment parlé du programme, mais je t'avais posé la question depuis quand un débat est un endroit où on parle des programmes des partis. c'est un spectacle, faut pas l'oublier, c'est un spectacle.
Oui, c'est un spectacle, mais en même temps, c'est
savoir
qui punch,
qui punch pas, qui dit des niaiseries, qui en dit pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est bien plus que Trump qui a perdu le débat que Harris qui l'a gagné. Là.
Oui, absolument. Moi aussi, je suis d'accord avec toi que Trump. Oui, absolument. Les gens qui mangent les chiens et les chats, puis il a sorti toutes sortes de niaiseries, c'est clair. C'est sa marque de commerce.
Des faussetés et des inepties de façon colossale, rien de moins. On va continuer de suivre ça. Merci, Sébastien Saint-François. Passe une belle journée.
Bonne semaine, puis à la semaine prochaine.
OK, bye.